sur Troisième Planète, on parle d'environnement et de société. Et on a la chance d'avoir deux invités, justement, qui sont Jean Robitaille, qui est coordonnateur pour le mouvement des établissements verts Brundtland, et monsieur Mathieu Papillon-Darvaux, qui est directeur général de NAFTI, Fondation Canada, et qui va nous parler de commerce équitable. Voilà, bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors, dans cette émission, on parle d'environnement et de société. On parle de l'impact de nos actions sur l'environnement. Et comme on l'a dit souvent, finalement, quand on achète un produit, derrière un produit, on achète un produit local, on achète un produit bio, on achète un produit avec des faibles émissions en CO2 et on achète aussi des produits qui sont certifiés équitables. Et derrière le certifié équitable, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Alors Mathieu, on va commencer par là. C'est quoi le commerce équitable?
En fait, je dirais que le commerce équitable, c'est avant tout des relations humaines entre le Nord et le Sud qui placent les gens avant l'argent, avant tout. C'est un mode de coopération alternatif qu'on connaît autrement qu'avec les projets de coopération auxquels on est habitué de voir. Mais faut pas croire que ce mode de coopération-là, c'est de la charité, ou bien au contraire, c'est un type de commerce. Ce qui est différent du commerce conventionnel auquel on est habitué de faire affaire. Le commerce équitable, c'est un commerce qui est réglementé. Hein, c'est une certification, donc certification veut dire norme et veut aussi dire inspection par des organisations de certification. Donc, à chaque année, il y a des organisations telles que Fairtrade Canada pour les commerçants ici au Nord. On a dans notre jargon, le FLO, le Fairtrade Labeling Organization, qui va certifier les organisations productrices du Sud. Et il y a une nouvelle, d'ailleurs, certification qui est en train d'être de plus en plus connue au Québec, qui est celle des petits producteurs, qui est d'ailleurs un commerçant à Montréal qui l'utilise présentement, qui est le Café Centropole. Ces normes-là, ils se traduisent en grands principes, en fait. Donc, les normes vont garantir un échange juste entre l'acheteur du Nord et le producteur du Sud, un juste prix pour leur travail, des conditions de vie qui respectent les droits humains, une égalité entre les sexes, la suppression de la discrimination, donc des pratiques agricoles qui respectent l'environnement, donc toutes des normes qui sont quand même intéressantes. Le commerce équitable, je crois personnellement que c'est aussi une alternative au commerce conventionnel, mais aussi pour le consommateur que c'est un choix. On peut décider de faire affaire avec des multinationales ou encore d'aider des petits producteurs du Sud qui travaillent très fort à produire des produits de qualité pour nous ici, les consommateurs du Nord. Donc, voilà la réponse à la question.
Oui. Tu as parlé des pays du Sud, mais tu as parlé aussi d'achat local, alors. Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce que c'est finalement il faut que acheter local? Il faut acheter un peu de commerce équitable? Est-ce que finalement c'est peut-être bon aussi pour le Québec d'acheter équitable?
Tout à fait, en fait. Puis même c'est un des problèmes qu'on rencontre quand on sensibilise le public au commerce équitable, on se confronte souvent à des gens qui pensent pourquoi aider les producteurs du Sud alors que je pourrais aider les gens à côté de moi qui vivent quand même que c'est quand même aussi difficile. Donc, moi, ce que je réponds à cette question-là, c'est en fait, le produit équitable, oui, est cultivé au Sud. Mais une fois qu'il est arrivé au Québec, le processus de transformation, la vente, la commercialisation, c'est tous des Québécois et des Québécoises qui sont impliqués dans cette partie-là du commerce équitable. Donc, il y a des gens comme vous et moi ici au Québec qui vivent du commerce équitable depuis quelques années. Pour en nommer quelques-uns, Dario Iezoni, qui est directeur de Centropole à Montréal, ça fait une dizaine d'années qui opère son café et qui vend des produits équitables. On peut penser ici à Québec à M. Orlando Cordova, qui est directeur d'Équidurable, qui est aussi un organisme qui vend plusieurs produits équitables, huile d'olive de Palestine, chocolat, café, toutes sortes de divers produits. Donc, le commerce équitable, où on encourage les gens du Sud, mais ça crée aussi des emplois au Nord. Ça, je pense qu'il faut faut pas l'oublier.
Ah oui, alors tu m'as donné quelques chiffres tout à l'heure qui étaient assez impressionnants sur ce commerce équitable qui prend de l'ampleur dans l'économie globale, finalement.
Oui. En fait, Fair Trade Canada nous a fourni les chiffres de 2011. On n'a pas encore ceux de 2012. Ça va sortir dans les prochains mois. Mais pour ce qui est du 2011, les ventes de détail au Canada est estimées à 300 millions de dollars. Et ça, c'est annuel. À l'international, on parle d'un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars canadiens. Selon Fairtrade, on a présentement 827 organisations qui sont certifiées équitables dans les pays du Sud, dans 58 pays en développement différents. Ça représente environ 1,2 million de producteurs qui vivent directement de ce type de commerce-là. Un des bénéfices du commerce équitable, c'est qu'il y a des réinvestissements. Les producteurs peuvent, ça leur permet d'amasser des sous pour réinvestir dans leur communauté en santé et en éducation. En 2011, c'est approximativement 69 millions de dollars canadiens qui ont été investis dans des projets d'éducation et de santé par les retombées du commerce équitable.
Bon, toi, tu baignes dans le commerce équitable, mais finalement, il t'a eu un déclic, je crois, pendant un voyage. Un voyage au Cameroun.
Oui.
De retour de ce voyage, finalement, tu avais envie de faire quelque chose de plus. Raconte-nous un peu.
En fait, j'ai fait un stage de 6 mois au Cameroun, 5 mois de juillet à décembre 2007. Puis à la fin de mon stage, il y a le partenaire avec qui je travaillais là-bas, l'organisation, m'a tout simplement fait une demande directe de continuer à les supporter dans le développement de leurs projets internationaux et tout ça. Donc, suite à ça, c'est là qu'on a démarré ici au Québec l'organisme NAFTI Fondation Canada. Donc, l'organisme, la fondation de l'organisme vient de cette demande du sud-là au Cameroun. On s'est donné comme mission, en fait, de faire avancer l'éducation, promouvoir la santé et aider au développement économique. Une mission quand même assez large qui peut englober toutes sortes de projets, dont le volet développement économique, commerce équitable. Donc, on réalise nos activités par 4 secteurs d'activité. Donc, soit la coopération internationale, qui sont les projets de développement. L'année dernière, on a construit un centre de santé dans la région de Gabetikar, au Cameroun. Cette année, on va commencer bientôt le développement d'une ferme de volailles communautaire.
Est-ce que je comprends que vous allez sur place?
Nous, on envoie des stagiaires sur place via notre secteur des stages internationaux. On envoie annuellement environ une douzaine de stagiaires, tout dépendant du nombre de candidatures qu'on reçoit, bien sûr. C'est nos stagiaires qui vont faire le travail terrain. Quand on a tout notre personnel pour les stages, on a une présence sur le terrain environ 6 mois par année. Ça, on peut le calculer comme ça. Donc, ça nous aide beaucoup à faire avancer les projets. On a aussi un secteur d'éducation du public qui rentre. On parle de la quinzaine du commerce équitable présentement. Bon, c'est un peu dans ce volet-là que ça embarque. Et ce qu'on fait en commerce équitable aussi au Sud, je pense que c'est important de le mentionner. On travaille avec une petite coopérative de 200 familles de producteurs, en fait. Ces producteurs-là ne sont pas encore certifiés. Et il y a 2 ans, ils nous ont demandé un appui dans la réception de leur certification. Donc, via notre programme de stage, de notre secteur de coopération, on va réussir à leur donner un appui pour qu'ils puissent recevoir la certification et éventuellement amener leur café ici au Québec.
D'accord. Qu'est-ce qui est le plus difficile, le plus compliqué pour eux pour obtenir cette certification?
C'est en fait, on a parlé de normes tantôt. Ouais. Pour avoir le logo Fairtrade, il y a beaucoup de normes. Pour les petits producteurs, côté monétaire aussi, c'est difficile d'atteindre les normes, mais c'est difficile aussi pour eux de payer la certification totale. D'où là l'importance de l'appui des organismes de coopération internationale au Nord. On sait que nous, il y a Fairtrade Labeling Organization, qui a un fonds pour la certification qui couvre 75% des frais de cette certification-là. Donc, nous, on peut appuyer les producteurs à aller chercher ce financement-là.
Oui, donc c'est plus une histoire de financement plus que de capacité.
Ben, les normes aussi, c'est pas toujours évident à atteindre. Le cahier de normes, je peux vous dire ainsi, est de 75 pages en Times New Roman, caractère 10. c'est des normes sur 5 ans. Donc, oui, la certification peut être reçue la prochaine année, mais elle doit être maintenue sur une période de 4 ans. Donc, il y a toujours des normes, des rajouts à faire que la coopérative doit être prête, là.
Oui, et bien, pour surtout pouvoir justifier et formaliser, je suppose, d'avoir des preuves.
Tout à fait. Et un des problèmes en commerce équitable, si on peut dire, ces normes-là n'ont pas nécessairement été fixées par les producteurs du Sud, ont été vraiment fixées par les acteurs du Nord. Donc, c'est ça que c'est là aussi, ça peut être un point de difficulté dans l'obtention de la certification.
Oui. Et toi, ta vision de, justement, ces petits producteurs, est-ce qu'ils ont une vision de là où vont leurs produits et l'envers du décor, de là où ça va?
Les normes du commerce équitable garantissent une traçabilité des produits. Donc, oui, les producteurs, une fois qu'ils sont certifiés équitables, peuvent savoir où leur produit se rend. Et voilà, c'est ça.
D'accord. Bien, oui.
Il y a peut-être un élément important à nommer pour ce qui touche le commerce équitable et toutes les activités au Sud, c'est que c'est beaucoup les femmes qu'on appuie aussi de cette façon-là. Parce que quand on regarde le portrait de l'agriculture dans les pays occidentaux, c'est davantage la réalité des hommes. Dans les pays du Sud, c'est davantage la réalité des femmes. Elles sont extrêmement présentes partout et nos gestes de consommation sont aussi des gestes de solidarité envers les pays du Sud, mais plus particulièrement envers les femmes qui sont dans toutes ces petites coopératives-là, que ce soit les noix de karité plus en Afrique de l'Ouest ou le café où les produits sont extrêmement nombreux.
C'est aussi souvent les femmes qui sont les gestionnaires.
Et d'ailleurs, cette année, un de nos projets, c'est d'aider au développement d'une coopérative pour un groupe de femmes dans la région où on travaille là, présentement.
On va faire une petite pause exotique. Exotique avec un groupe qui vient justement du Cameroun. C'est un titre qu'on entend souvent, tu m'as dit?
Ben, c'est pas un titre, mais en fait, l'ambiance
non,
de la
musique,
on l'entend souvent dans les rues quand on se promène dans les villages et tout ça.
D'accord, bon, ben, on y va.
C'est l'homme qui trompe la femme.
Moi je dis que c'est l'homme qui trompe la femme. Je dis que c'est l'homme qui trompe la femme.
La femme dit c'est l'homme qui trompe. L'homme dit que c'est la femme qui trompe. Maintenant de là où j'ai ceux qui trompent alors. Moi je dis que c'est l'homme qui trompe la femme.
Moi je dis que c'est l'homme qui trompe la femme. Je dis que c'est l'homme qui trompe la femme.
Ils ont toujours un pied dedans, un pied de haut, maman. Moi, c'est de vouloir jouer au petit malin. Quand on les entame, la main de le sert, ça devient la bastonnade. Moi, je dis que c'est l'homme qui trompe la femme. Moi, je dis que c'est l'homme qui trompe la femme.
Architecte, Francisco, famille. Architecte. Petit Jésus de Manchester, c'est pas d'amour de Alexis. Tchiki, Nora et So, le cœur du pays. Tchiki, Longa Oscar. Achille Emana, le gouverneur de Toulouse, Kibia, tout le monde, Job Désiré, everybody, Fadil, Bayero, le roi. Amidou Marafa Yaya.
André Jacoboni, Dad, Nassau. Sonia Daniel Mikobe, monte si oui. I wonder who Fatima Bayero, la princesse.
Y'a pas amour, y'a pas jangé. Y'a pas amour, y'a pas jang. Y'a pas amour, et y'a pas jang.
Amadou Valmouke. Inoni Ephraim, Antoine Michel, Michael.
Y'a pas amour, y'a pas jangé. Y'a pas amour, y'a pas jangé. Y'a pas amour, y'a pas jangé.
Mon blanc, Toto, te guider, Didier Hollywood. Doc Victor, Francis Meloné, tout le monde. À la terre, Cam Gaki, businessman. Job Désiré, le playboy. Faut faire des lits de Bawa. Baby Hot. Aimé Johnny, de Bonita. Michel Fosso, Yves. Mon ami.
Y'a pas chiqui chiqui. Oh 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 oh. Hey 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 hey.
Dinga George Bamenda.
Y'a pas amour. Y'a pas chiqui chiqui. Y'a pas jamais. Y'a pas amour. Oh oh oh. Hey 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 hey.
Merci Daniel Mongue. Tafunga Saint-Martin. Le privé de Vivaï. Y'a à la terre. Biancha, Stéphane, tout le monde. Everybody. Rien de jouer ensemble. Everybody. Françoise Fonin.
Y'a pas amour, y'a pas jangé. Y'a pas amour, y'a pas jangé. Y'a pas amour, y'a pas chiqui chiqui.
Raiso mona la molewa e lambodi.
Wo 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 wo. Ya pa more.
Bien, on a parlé de commerce équitable, on en sait un peu plus. Vous l'avez peut-être vu à Québec, entendu. En ce moment, c'est la quinzaine, et c'est la neuvième quinzaine du commerce équitable, qui s'intitule cette fois-ci « Pas à pas vers une ville équitable ». Alors, Mathieu, tu peux nous en dire plus? Il n'y a pas que NAFTI, d'ailleurs, qui est dans l'organisation de cet événement.
Non, en fait, le comité organisateur est composé de trois organisations, trois organismes de coopération internationale. Outre NAFTI, on peut parler de l'AMI, l'Aide internationale en l'enfance, qui est quand même 42-43 ans d'existence ici à Québec. L'AMI qui s'est donné pour mission de répondre aux besoins fondamentaux des enfants pays de développement. On a aussi également Équidurable, qui est une boutique de commerce équitable et qui fait également du tourisme durable. Donc, on est partenaires ensemble dans l'organisation de l'événement. C'est la quinzaine, ça se fait pas tout seul. C'est beaucoup de travail d'organisation et de logistique.
D'ailleurs, ça a commencé, je n'ai pas donné les dates, mais ça a commencé le 1er.
Oui.
Et puis ça finit le 18, c'est ça?
18 mai prochain.
Bon. Donc, qu'est-ce que vous avez eu déjà comme événement? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er?
On a fait une conférence de presse de lancement à la brasserie La Corrigane le 1er mai. Sur l'heure du midi. Mmh. Donc, c'est là qu'on a annoncé la thématique qu'on allait utiliser pour les trois prochaines années. On s'engage cette année sur un plan triennal. C'est
d'accord.
Quand même un gros dossier. C'est un peu un projet en parallèle avec la quinzaine, mais on fait une fusion des deux là, pour que ça soit plus intéressant. Le dossier, en fait, c'est on souhaite faire de Québec une ville équitable. Donc, c'est Il y a beaucoup de villes qui ont reçu la certification équitable jusqu'à maintenant. On peut penser à Sherbrooke.
Sherbrooke, oui.
Qui l'a reçu l'année dernière, je crois. Aussi, on a Trois-Rivières, que ça fait 2 ans, eux, qui sont dans le dossier. Donc, ils sont à veille de la recevoir. On a appris que Toronto, en Ontario, a reçu la certification équitable il y a à peu près 3 semaines. Donc, on se dit, pourquoi pas Québec non plus?
Ben oui, oui.
Il faudrait peut-être rappeler un peu qu'est-ce que ça implique. Ça implique pas que toute la ville soit équitable. Hein. C'est que la ville fasse des projets spécifiques pour aider les organismes équitables, quelque chose.
C'est en fait pour aider la vente des produits équitables un peu partout dans la ville de Québec. Exact. Les rendre disponibles, en fait. Mm. C'est aussi des normes, des objectifs à atteindre. Donc, le comité organisateur de la quinzaine s'est donné 3 ans pour les réaliser. En termes d'objectifs, on parle du soutien des autorités locales. Donc, c'est ça que là, c'est des démarches avec la ville qu'on veut entreprendre. C'est quoi ces démarches-là? Ben, on a besoin d'une résolution du conseil de ville qui appuie le mouvement du commerce équitable.
D'accord.
Aussi, on va proposer à la ville, dans leurs assemblées, qui ici à Québec, c'est le lundi soir, dans leur assemblée... Mm-hmm. Dans leur assemblée, mais offre du produit équitable, aussi dans leurs événements. Donc, c'est toutes des normes comme ça pour la ville. Aussi, un autre objectif, c'est la disponibilité des produits certifiés équitables dans les magasins et cafés. Soutien dans les milieux de travail, des groupes à caractère religieux et des écoles, soutien des médias et du grand public. Comment ça fonctionne une ville équitable, le dossier ville équitable? Ça fonctionne, on fonctionne par tranche d'habitants dans une ville. Donc, c'est à chaque tranche de 100 000 habitants, on doit avoir, exemple, 2 épiceries qui vont fournir 2 produits équitables qui vont les mettre en évidence sur leur tablette. Donc, ici à Québec, on est 500 000 habitants, donc on doit aller, on doit faire le calcul pour atteindre nos objectifs.
Et aussi dans les entreprises, je suppose aussi. Je crois qu'il y a y a des démarches dans les entreprises.
Tout à fait. Pour ce qui est des entreprises, le mouvement Québec Ville Équitable veut proposer aux entreprises de fournir des produits équitables à leurs employés. On a développé une activité de sensibilisation et d'initiation au commerce équitable pour les entreprises qui veulent s'engager dans le dossier, qui veulent nous appuyer. Ça s'appelle l'équitable au boulot. Donc, le principe de l'équitable au boulot est une activité clé en main où est-ce qu'il y a une escouade de bénévoles qui par les organisations, membres de la quinzaine, qui va dans l'entreprise le matin, on arrive avec le café, les bananes, les muffins, et on sert les employés à leur entrée au travail. Donc, ça rend quand même les employés heureux quand le patron offre le déjeuner à l'employé. C'est sûr que, bon, il y a un coût relié à ça. On charge quand même 5 $ par employé de l'entreprise. Aussi, c'est des entreprises de 50 employés et plus qu'on va cibler. C'est sûr que si vous faites partie d'un bloc, comme en tant qu'entreprise, puis que vous avez 5-6 employés, mais que dans un bloc, il y a plus que 50 personnes, on encourage aussi les regroupements là, pour pouvoir faire l'activité.
D'accord.
C'est intéressant comme démarche, ben, d'un point de vue éducatif d'abord, parce que on s'adresse directement aux gens du milieu, aux gens de la communauté, on leur présente ce qu'est le commerce équitable, les avantages que ça peut avoir. Et c'est intéressant aussi dans le contexte actuel où il y a un désengagement de l'État, particulièrement du fédéral, mm-hmm. pour tout le support des organismes de coopération internationale. Donc, ce qu'on trouve plus ailleurs, je pense que c'est important de faire appel à la solidarité locale pour que ce type de projet-là puisse continuer à vivre.
Tout à fait. Puis l'activité est faite pour ça. En plus, oui, on sert un déjeuner, mais ça permet de sensibiliser par rapport au commerce équitable. Qu'est-ce que c'est vraiment de démystifier un peu les mythes et tabous par rapport à ce type de commerce-là.
Vous avez une expérience avec les écoles ou c'est pas un public qui est ciblé?
Les écoles, c'est un autre volet, oui. En fait, c'est plus que les écoles vendent du café équitable à leurs employés, à leurs professeurs et tout ça.
D'accord.
Il y a Équidurable ici à Québec pour les écoles qui ont des projets ou qui font des voyages humanitaires, des fois des voyages d'aide de coopération. Équidurable durable propose des campagnes de financement avec les produits équitables. Donc, pour ramasser des sous pour les élèves, ça peut être quelque chose de très intéressant.
Ah oui, c'est tout à fait cohérent avec la démarche. Ouais.
Tout à fait.
Mais je crois que, Jean, tu m'as dit qu'il y avait une trousse aussi éducative sur le...
Oui, en fait, on a produit il y a quelques années aux établissements verts Brantlin une trousse qui s'appelle « D'un commerce agréable et équitable ». Avec guide pédagogique pour les jeunes du primaire et du secondaire. Et le guide, en fait, c'est 50 fiches qui expliquent un peu l'histoire du commerce depuis le troc jusqu'à la mondialisation actuelle.
D'accord.
Et qui présente un peu quels peuvent être les impacts de nos modes de consommation à terme sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions environnementales. Et ça amène à démontrer un peu que nos façons de faire nous conduisent d'une certaine façon dans un mur et qu'il faut réfléchir à notre façon de consommer. Le commerce équitable est une solution intéressante. Donc, c'est à travers des activités proposées aux élèves où on arrive à leur faire prendre conscience, à développer un esprit critique sur notre consommation. Qu'est-ce que je suis mieux de consommer? Un produit équitable qui me vient de 5000 km? Ou si je suis mieux d'acheter des tomates bio qui viennent du Mexique. Tous les fois, les choix sont jamais trop, trop faciles. Mais en éducation, ce qui m'apparaît essentiel, c'est d'amener les jeunes à développer leur esprit critique et à essayer de trouver leurs propres solutions et leurs propres réponses à ces grandes questions-là qui sont importantes. Une fois qu'ils l'ont assimilé, qu'ils l'ont compris, à partir de là, on peut espérer que le geste devienne un automatisme par la suite.
Mm-mm. On en revient à cette quinzaine. Je crois que c'est la semaine prochaine, le 15 mai, où il va y avoir une table ronde, un débat.
Oui, tout à fait. Si vous voulez en connaître plus, en fait, sur ce que ça peut apporter, devenir ville équitable, sur ce que ça engage, les enjeux et tout ça, on organise une table ronde à la brasserie La Corrigane de 5 à, c'est un 5 à 7, sous formule 5 à 7. Sur la thématique de la table ronde, c'est vers une ville équitable. Donc, on a 4 personnes qui vont présenter leur expérience dans le dossier. Donc, on a M. Cordova de Québec qui va présenter un peu le souhait de Québec de devenir une ville équitable. Pourquoi et pourquoi on s'en va vers là? On a M. Dario Iezoni qui est président de l'Association québécoise du commerce équitable qui va également être là. On a une personne du comité de solidarité de Trois-Rivières qui a travaillé, qui participe encore d'ailleurs au dossier Québec, Trois-Rivières Ville équitable, pardon. Et M. Christian Guyot du Centre de solidarité internationale de Sherbrooke, qui eux sont vraiment passés au travers du dossier.
Oui, c'est eux qui ont poussé la ville de Sherbrooke à se certifier.
Tout à fait.
C'est assez incroyable quand même. Sherbrooke est une toute petite ville qui a un système de coopération internationale qui est au-dessus de 30 ans, je pense que ça fonctionne. Puis ils sont vraiment... Et ça rapporte hein, socialement, parce qu'il y a beaucoup d'immigration à Sherbrooke qui a été très utile et qui relève beaucoup de leur expérience de coopération internationale. Même l'Université de Sherbrooke en a profité. Oui. Il est allé chercher bien des professeurs puis bien des élèves. Grâce à tous les liens qui se sont tissés à travers les années en coopération internationale. Bon, on va passer aux écoles Brundtland, parce qu'on dit les écoles, c'est des établissements Brundtland, parce que quand on dit école, on pense souvent à l'école primaire, mais il y a aussi des établissements d'enseignement secondaire, il y a des cégeps, il y a probablement des instituts, des écoles privées, je ne sais pas où vous en êtes, mais ce que je sais, c'est que là, vous en êtes à votre 20e anniversaire depuis 1993, qui a des écoles, des établissements scolaires qui sont déclarés qui sont embarqués dans le réseau vert Brundtland. Ça vaut la peine de rappeler, quand on dit Brundtland, c'est un mot que tous les gens connaissent pas. Là, en 1988, il y a l'ancienne ministre de l'Environnement. C'était de Suède ou du Danemark?
De Norvège.
De Norvège, pardon.
De Norvège.
Je l'avais pas du tout. Alors, Mme Gro Harlem Brundtland, qui dirigeait la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU, qui a soumis un rapport qui avait fait un choc. Vraiment, tous les médias à travers la planète s'est emparé de ça pour dire, je me rappelle du livre aussi.
Notre avenir à tous.
Oui, oui, avec, on voyait la planète, là, puis c'est ça dont il est question, c'est ça qui est en danger. Ça avait réveillé bien des gens. Et la CSQ, dont vous êtes la centrale des syndicats du Québec, déjà à cette époque-là, avait dit, nous, on veut faire quelque chose, on veut sensibiliser les les enfants, les élèves et la société en général aux grands enjeux de l'environnement, pas seulement la question de recyclage ou trucs comme ça, dire la planète est en danger. Et là, vous êtes rendu une grosse... vous avez continué, puis ça n'a pas dû être facile, là, pendant 20 ans de faire ça, et ça fonctionne encore très bien, là.
Bon, ça fonctionne très bien, 1400 établissements reconnus, donc c'est quand même une masse critique importante de gens. Donc, vous aviez raison de placer le 1988, la version française du rapport Brundtland, 87 en anglais. Et si on dit, nous, un établissement vert, oui, parce qu'on s'occupe de récupération, de recyclage, de toutes les questions environnementales, mais l'aspect Brundtland, reconnu dans autour de l'idée du concept de développement durable, c'est aussi que on peut pas espérer un avenir meilleur pour la planète si on s'occupe pas de questions qui touchent la démocratie, la solidarité, la lutte à la militarisation, toutes les questions pacifiques. Donc, on a choisi de garder ce nom-là, établissement vert, mais Brundtland, pour mettre en relief un peu ces éléments-là. En 88, lors de la parution du rapport Brundtland, il y a au sein de la centrale une volonté de pouvoir dire on va aborder cette thématique-là, c'est essentiel pour nos jeunes, c'est un élément éducatif sur lequel on doit tabler pour réussir à faire les choses. Donc, il y a une tradition à la centrale de cahiers pédagogiques, de réseaux d'enseignants ou de professionnels ou de gens de personnel de soutien qui se regroupent et qui réfléchissent un peu à une thématique. Et on a créé en 88 un réseau environnement qui est devenu très populaire au sein de la centrale. Et il y a un premier guide pédagogique qui a été créé qui s'appelait « Ensemble récupérons notre planète ».
Oui, oui, oui.
Et ce qui est intéressant avec ce guide-là, c'est que la centrale a eu la bonne idée de s'associer à presque 25 groupes qui étaient préoccupés par les questions du rapport Brundtland, qui chacune ont fourni une activité pédagogique, il y a eu un travail pour créer une certaine unité entre tout ça. Et c'est un guide qui, après ça, a été distribué largement dans le milieu scolaire. Il y a eu des formations qui ont été associées à cette...
Oui, parce que quand on dit un guide, là, ça veut dire qu'il y a des exercices pédagogiques, il y a des exemples de travaux qu'on peut faire aux élèves, de dessins ou de... Oui, c'est assez impressionnant. Mm-hmm. Et ça veut dire que le ministère de l'Éducation, par définition, doit l'accepter, j'imagine, ou aussi?
Par définition, devrait, mais disons que on a eu des appuis au début du ministère. Mais depuis, disons, les appuis sont très, très, très peu nombreux. Mm-hmm. C'est vraiment un engagement bénévole, si on peut dire, des gens. Il y a pas une reconnaissance officielle du matériel qu'on produit par le ministère comme tel. Ils n'ont pas mis leur imprimatur là-dessus.
Ouais. Non, moi, je comprends que ce n'est pas contesté non plus. Bon.
Donc,
mais comment ça se passe pour une école, pour qu'une école dise, nous, on veut devenir une école, un établissement vers Brundtland, il faut qu'ils prouvent, pas nécessairement une certification, mais ils adhèrent à quelque chose.
Oui, ils adhèrent. Ils adhèrent à quatre valeurs, point de départ. Disons, revenons juste un petit peu en arrière. Si on a créé le mouvement, c'est pour reconnaître le travail que font les jeunes et les adultes dans le milieu scolaire ou dans d'autres milieux. C'est vraiment de reconnaître ce travail-là. Et ça, c'est un élément essentiel, extrêmement important.
Oui, parce que ça fait une belle petite cérémonie, là, quand vous voulez leur remettre un certificat. Là,
on reconnaît l'école officiellement devant le personnel de l'école, les gens de la communauté, les parents qui sont invités à cette cérémonie-là, où l'école est reconnue, d'une part, parce qu'elle s'est engagée concrètement dans des projets, des activités pédagogiques autour des quatre valeurs fondamentale du mouvement, donc un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique, et aussi parce que les projets qui ont été réalisés ont été à quatre niveaux. Au niveau de la classe, au niveau de l'établissement, en ouverture sur la communauté et en ouverture sur le monde. Donc c'est un peu la réalisation de ces critères-là qui permet à l'école de postuler d'une façon tout à fait volontaire et d'adhérer au mouvement VB.
Et comme ça fait 20 ans, là, je ne sais pas si vous avez... On se demande souvent si ce qu'on fait porte vraiment des fruits, est-ce qu'on a du feedback, mais là, comme ça fait 20 ans, ça veut dire que des élèves qui avaient 5-6 ans là, sont des jeunes adultes maintenant, 25, 26, 30 ans. Est-ce que vous avez des espèces de retours comme ça de jeunes adultes aujourd'hui, qui sont peut-être même des jeunes parents, qui vous disent « L'école verte Brundtland, j'ai appris beaucoup de choses, ça a marqué ma vie », ou je ne sais pas à quel point, là.
Oui, je dirais qu'il y a des impacts indéniables au fait de passer à travers par un établissement vers Brandlin. C'est certain, c'est un peu toujours à géométrie variable. Oh, ça dépend vraiment de l'intérêt des personnes qui y sont. Mais ça amène des changements réels à notre point de vue. On travaille en collaboration avec plusieurs groupes. Il y a entre autres Oxfam Québec qui réalise à chaque année sa marche de tiers avec 15 000 jeunes dans les rues de Montréal, dont beaucoup de jeunes du mouvement des établissements vers Brandlin. Et toutes ces petites actions-là réalisées à l'initiative de la centrale, des groupes tout autour, je pense qu'on est un vaste groupe, un mouvement, c'est pour ça qu'on parle du mouvement des établissements vers Brandlin, qui amène un changement de mentalité, qui amène les jeunes à voir les choses un petit peu différemment et qui les amène surtout à prendre conscience que leur petit geste peut amener à quelque chose. Et ça, c'est extrêmement important dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. C'est aujourd'hui le 10e anniversaire de ma petite filleule.
Ah oui.
Oui. Et
bonjour, elle, petite filleule.
Elle disait à sa grand-mère il y a une couple de jours, je pense que je suis né trop tard. Est-ce que je vais avoir de l'eau plus tard? Est-ce que l'air va être respirable?
Pauvre chérie, il ne faut pas leur faire peur, les pauvres enfants.
Ouais. Et ça, c'est un élément important.
Oui, oui.
Et c'est un élément important, puis on a développé un peu aux EVB l'idée d'une pédagogie de l'espoir. Parce que, à mon âge, quand j'écoutais Michel Rivard dans les années 80, il disait « tous mes cauchemars passent à 6 heures à la télévision ». Et quand on regarde les nouvelles, quand on regarde ce qui se passe, c'est sûr que l'avenir qu'on leur présente n'est pas nécessairement un avenir qui est très, très rose. Mm-hmm. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Si ce n'est que de mettre les jeunes en action. Et c'est quand on est impliqué, et c'est quand on sent qu'on fait partie de la solution, que l'espoir vient avec et qu'on acquiert une conviction qu'on a la possibilité de changer les choses. Dans le monde dans lequel on est, c'est d'après moi seulement à travers l'action qu'on peut réussir à faire les choses. Et le mouvement des établissements vers Brandlin est une école d'action, est une école d'engagement. Et c'est à travers l'engagement qu'on peut changer quelque chose.
Et quand les écoles, quand tout ça a commencé, Internet n'existait pas encore.
Non.
Ou était à ses premiers balbutiements, mais c'était encore pas du tout dans les écoles. Ça a dû changer quelque chose beaucoup sur le volet international. Est-ce que les enfants se mettent en contact avec des enfants à travers le monde? Est-ce que des échanges, ça donne une possibilité considérable?
Oui. Donc, tantôt, on parlait un peu du projet dont parlait notre ami au Cameroun. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'écoles qui appuient des projets de coopération internationale à l'étranger, des puits en Inde, commerce équitable, correspondance avec les écoles, des écoles à l'étranger. Donc, où il y a une ouverture sur le monde, et c'est sûr que les moyens technologiques facilitent un petit peu ces choses-là, et permettent peut-être de réaliser aux gens d'ici que nos appareils sont autrement plus performants que ceux qui ont là-bas, qu'ici, on a une chance d'avoir accès à l'éducation, avoir accès à la connaissance qui est loin d'être aussi disponible dans les pays en voie de développement. Et ça aide un peu de développer ce sentiment de solidarité envers les jeunes qui vivent ailleurs et qui ont peut-être pas les meilleures chances que
nous. On voit beaucoup, beaucoup de jeunes de début vingtaine là, qui reviennent de voyage justement, où ils sont allés faire de la coopération. Et ça les marque. Je prends par exemple, il y a un petit commerce qui vient de s'ouvrir sur la rue Saint-Jean il y a quelques mois, je pense. Ils vendent des produits du Pérou, de l'Alpaga. Là. Il y a toutes sortes de trucs, des robes, des vêtements. Et ils sont en lien avec une coopérative là-bas qu'ils aident. Alors, ce sont des jeunes de Québec là, qui sont sûrement passés par les écoles, par vos écoles Brundtland, et qui là, ensuite, sont allés dans d'autres programmes. Et ça fait toute une autre perspective de la vie. Et en plus, ce sont des jeunes qui, en plus d'être branchés sur la planète, sur les pays en voie de développement, apprennent à faire du commerce, puis à s'intéresser à ça. Ils sont sensibilisés au commerce équitable et tout ça. C'est une nouvelle génération à mon époque, ça n'existait pas beaucoup. On rêvait beaucoup d'aider les pays du tiers-monde. C'est plus les missionnaires qui allaient là-bas. Là, mais là on voit des jeunes qui sont beaucoup plus épanouis. Ça va bien. Je sais que ça n'a pas été toujours facile pour vous. Là, il y a eu des vous êtes associé beaucoup avec Recyc Québec, hein, je pense.
Oui, pendant les presque les 20 premières années avec un appui de Recyc Québec important. Ce qui, si on regarde un peu l'évolution du mouvement, ce qui devient difficile à un moment donné, c'est de... On est beaucoup d'établissements.
Oui, c'est
et
ça.
Et ça demande de répondre, une coordination extrêmement importante. Et c'est là que le fait de travailler à l'intérieur d'une structure syndicale nous aide. Dans la mesure où il y a des syndicats partout au Québec, il y a des responsables attitrés au dossier EVB un peu partout, qui, à leur tour, sont en lien avec les établissements de leur secteur, dans lequel on a aussi des responsables EVB. Donc, le défi pour nous, c'est peut-être d'être parti d'un projet qui est parti d'un groupe de personnes au point de départ et qui est descendu vers la base. Le grand défi à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que chacun dans son milieu reprenne le flambeau et anime son propre milieu, anime son école, sa communauté, son village, sa région. Et c'est un peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. C'est, à terme, je pense qu'il y a, une question de responsabilité, d'engagement citoyen de tout le monde. Et chacun a posé des petits gestes à notre échelle si on espère faire en sorte que le monde aille dans le sens où on le souhaite.
Oui, puis j'imagine que dans certaines écoles, ça marche K1, K.A. pendant un temps. Ensuite, ça marche à fond la caisse parce que là, il est arrivé des professeurs qui sont plus dynamiques, qui aiment le comme partout. Est-ce qu'il y a eu comme ça, spontanément, est-ce que vous vous rappelez d'écoles qui ont fait des projets vraiment tellement extraordinaires que c'est ça sort de ce qu'on peut attendre généralement?
Disons que cet après-midi, j'étais dans un jury. On a organisé un concours pour souligner le 20e anniversaire des établissements verts Brundtland, un concours qui s'appelle « J'affiche mon engagement ». Et c'est impressionnant de voir ce qui peut se faire dans des établissements.
Ah oui?
Bon, il y a des... moi, j'en suis tombé presque presque à terre à voir ce qui se fait. Une école, entre autres, de jeunes déficients qui s'impliquent au niveau de l'école, qui réalisent des projets. Donc, déjà, ça, c'est très touchant de voir un peu ce qui se fait de ce côté-là. Et des écoles qui débordent le cadre strict de l'environnement pour aussi intégrer à leur projet toutes les questions liées à la démocratie. Donc, un des critères, c'est que le projet qui est proposé ou l'activité qui était proposée devait être faite en équipe et devait être décidée de façon démocratique. Donc, ça, c'est de quoi qui est intéressant. Devait pouvoir se faire en solidarité. Et quand on travaille avec des groupes qui sont un peu plus en difficulté d'apprentissage, la solidarité entre les jeunes et les élèves, elle ressort réellement. Et ça, c'est une victoire un petit peu pour nous autres de voir ça.
Ah oui, puis c'est une victoire sur le plan scolaire aussi. Oui. Ça permet d'avoir de bien meilleurs résultats scolaires quand ces jeunes-là ont des problèmes d'estime de soi, de pouvoir s'aider. Ça va être assez formidable.
Et une motivation, puis la conscience que ce qu'ils font, c'est pas quelque chose de bénin, que chacune de leurs petites actions ça s'additionne à celles des autres et qu'on arrive à des résultats. Donc, ça va toucher autant les écoles. Je pense que le mouvement des établissements verts Brundtland y est pour beaucoup, là. Tout ce qui touche la question de la récupération, recyclage dans les écoles. Il y a des parents qui doivent avoir les oreilles qui bourdonnent à force de se faire dire par leurs jeunes.
Fais pas ci comme ça.
Et c'est que l'école devient, à ce moment-là, un lieu de transformation sociale, un endroit où les jeunes deviennent à leur tour des éducateurs. Et c'est des responsabilités qu'ils endossent très, très bien.
La semaine prochaine, excuse-moi.
J'ai une question. J'ai entendu parler des écoles-entreprises aussi.
Oui.
En termes de responsabilisation aussi, c'est...
Il y a plusieurs écoles, des écoles vertes Brundtland, qui appartiennent aussi au réseau des écoles entrepreneuriales, des écoles, et qui réalisent des projets qui joignent à la fois le secteur économique, mais aussi les valeurs liées à l'environnement, à la solidarité, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant, que ce soit produire du papier aider, créer un service d'aide aux personnes âgées dans un milieu. Donc, c'est l'imagination des élèves est extrêmement intéressante de ce côté-là. Et leur désir de s'inscrire dans leur communauté est aussi très présente. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est important qu'il y ait des gens qui soient à l'écoute de ces besoins-là et qui leur permettent de faire ça. Parce qu'on est dans un monde de plus en plus individuel. Et ce travail de coopération, c'est beaucoup le milieu de l'éducation qui permet de le faire et de recréer des liens entre les gens au sein d'une communauté.
Ouais. Le sens qu'ils servent à quelque chose, en fait, finalement.
Oui.
On parle beaucoup ces temps-ci, vous connaissez tous les phénomènes médiatiques, là, on parle beaucoup d'intimidation, de harcèlement entre élèves. Est-ce qu'il y a un volet des écoles Brundtland qui directement s'attaque à ça ou si c'est...
C'est le volet pacifisme.
Ah bon? Donc,
quand on regarde, c'est une autre des valeurs. Ouais. Oui, regardez ce qui se passe au niveau de la guerre. Mais la première façon de vivre en paix, c'est de vivre en paix avec son voisin, de l'accepter comme il est. C'est toute la question de pouvoir arriver à vivre ensemble et à développer les moyens, les habiletés de pouvoir réussir à faire ces choses-là. C'est sûr que l'intimidation est un problème extrêmement important à l'échelle des écoles. Et c'est un volet que l'on touche de façon très, très importante.
La semaine prochaine, à peu près à cette heure-ci, vous allez être dans un événement, là, c'est le 20e. Est-ce qu'il y a des activités qui sont grand public ou enfin où les parents, les élèves sont invités?
Oui, disons qu'on se rejoint la semaine prochaine à l'Université Laval, l'université qui est l'hôte de l'événement. On va dire qu'il y a la faculté de foresterie, de géographie, de géomatique, architecture, art, design, le service des résidences sont des établissements reconnus, établissements vers Brundtland.
Ah, regardons ça, j'ai jamais entendu parler.
Donc, même les universités, ils voient un intérêt un peu à s'afficher comme étant des établissements qui prônent un modèle de société axé autour des valeurs d'écologie, de pacifisme, de solidarité, de démocratie. Ça, c'est une chose importante à mentionner. Ce qui se passe lors de ces deux journées-là, une première journée, on reçoit surtout nos gens des régions. On attend 500 personnes, des adultes et des jeunes, engagés d'un peu partout au Québec. Il y a des activités qui leur sont proposées, on pourra y revenir. Et le lendemain, c'est la grande région de Québec qui s'ajoute à ça. Donc, on devrait être au-dessus de 1000. Peut-être 300 adultes et 700 jeunes qui, en première partie de la journée, vont visiter et participer à une exposition. C'est la grande exposition EVB, une trentaine de groupes d'environnement, de solidarité internationale qui y seront. Il y a offert aux jeunes à ce moment-là deux blocs de cinq mini-conférences qui leur sont proposées sur le thème de la militarisation, sur le commerce équitable, sur la récupération, sur l'ami dont on parlait tantôt, justement, va être présent à cet événement-là. Et à partir d'11h15, on a une grande marche symbolique qui va nous amener au stade du PEPS pour une partie spectacle avec un groupe de Québec autour de Djembé Québec qui va animer un petit peu la foule.
Là, on parle d'enfants de quel âge à peu près?
Ça va être des jeunes de fin du primaire et du secondaire, on peut dire à peu près entre 10 et 17 ans. Mais même des adultes en formation vont être présents à ce moment-là. Et il y a donc le spectacle, un gala où on va reconnaître les jeunes, le travail, leur engagement au cours de l'année. Et on va terminer par la réalisation d'un papillon humain. Petite parenthèse, le logo des établissements vers Brundtland, c'est un papillon. Donc, sur le stade du PEPS, on reproduit en grand un immense papillon. Et on aura 1000 personnes qui vont se retrouver pour faire un immense papillon humain à ce moment-là. Et on termine par un spectacle, par la musique. Donc, une fête, ça mérite d'être souligné, 20 ans d'engagement pour un monde meilleur.
Et d'ailleurs, c'est combien d'établissements? Est-ce qu'on en a? On n'a pas dit de chiffres?
1400 établissements.
Il y a le réseau québécois. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux semblables ailleurs? Est-ce que seulement au Québec ou ça s'est fait?
Ça s'est fait au Québec et ça inspire aussi beaucoup de pays. Moi, j'ai eu la chance de travailler au Burkina Faso, au Niger et au Mali, où on a travaillé là-bas à mettre en place un réseau d'établissements vers Brundtland, travailler avec des groupes d'enseignants, une quarantaine d'enseignants dans chacun des pays qui sont devenus des multiplicateurs avec qui on a créé du matériel pédagogique sur les problématiques qui les concernent. Il y a eu une démultiplication qui s'est faite, une formation un peu partout dans les différentes régions de ces pays-là. Pas loin de 6000 guides pédagogiques qui ont été distribués. Et avec le désir de relier ces trois pays d'Afrique subsaharienne qui ont un peu les mêmes caractéristiques et qui sont parmi les trois pays les plus pauvres du monde, de façon à essayer de reproduire un peu le modèle qu'on a fait là-bas, qu'on a développé ici, et d'établir des liens entre les écoles du Nord et les écoles du Sud.
C'est-à-dire que la CSQ fait de la coopération internationale aussi.
Oui, on fait de la coopération internationale avec maintenant plus de difficultés, puis je me gênerai pas pour le dire.
C'est aussi pour le milieu des organisations de coopération internationale. C'est pas facile comme ça l'était avant.
C'est extrêmement difficile. D'une part, l'ACDI a changé complètement sa façon de financer les groupes. Avant, les groupes proposaient et étaient financés selon les produits proposés.
Selon les projets, oui.
On peut dire que l'ACDI n'existe plus maintenant, qu'elle a été fusionnée avec le maïs.
Donc il y a eu cette fusion-là et il y a surtout eu une façon de changer les choses où maintenant la nouvelle conception du développement international est très liée aux intérêts économiques canadiens et on va envoyer des demandes aux organismes qui seront financés s'ils répondent aux objectifs qu'a fixé le gouvernement.
Oui.
Avec comme résultat qu'on a des compagnies minières qui sont financées par le gouvernement canadien pour faire de la coopération internationale à l'heure actuelle, qu'on a de plus en plus d'organismes à vocation religieuse qui reçoivent des financements.
Si je peux rajouter, un des derniers projets qui a été financé, un groupe religieux anti-gay, si je me rappelle, c'est en Afrique centrale, qui a été financé par le gouvernement Harper, qui a fait beaucoup de chaos un peu dans le milieu de la coopération. Là.
Oui, et tout a commencé par l'arrêt du financement de l'éducation publique. Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'on se retrouve à ce moment-là avec ce qui éveille les consciences, c'est l'éducation. Si on coupe l'éducation, on se retrouve avec des gens qui sont pas conscients de...
Là, vous parlez des projets d'éducation les pays en développement.
En développement et l'éducation du public, des Canadiens,
En fait, là-dessus, je pense que c'est important de mentionner, d'ailleurs, comme on coupe au gouvernement fédéral et maintenant quand même un petit peu depuis les derniers mois au provincial, l'éducation du public est de plus en plus importante justement parce que ça engage les gens à venir travailler dans les projets, donner un soutien financier, tout ça, où là, où est-ce qu'on est coupé comme presque à 60% par les fonds gouvernementaux.
Et ce volet d'éducation, on le maintient, on le garde, c'est extrêmement important. Parmi les conférenciers qu'on aura, le 14, par exemple, on reçoit André Bellil, qui est le président de
qu'on a reçu ici, quelqu'un qui n'est pas trop timide.
Et qui est vraiment un pionnier, qui est là depuis 30 ans, qui va nous présenter un portrait de ce qui se passe un peu là-dessus. Barbara Genet, de Québécois, vous receviez, est aussi une de nos conférencières. Gervais Lheureux, le directeur général de la COSI, de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, va nous dresser un bilan de ce qui s'est passé depuis 20 ans et des défis à l'heure actuelle. Lise Parent, qui est la vice-présidente du Réseau des femmes en environnement, qui sera présente aussi, présenter une conférence sur le sabotage hormonal, notre rouge à lèvres pour les femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute une série de problèmes.
Il y a plusieurs signaux d'alerte qui ont été lancés là-dessus. Là, c'est pas nouveau qu'on entende ça, mais là, ça a l'air de plus en plus inquiétant.
Et Yvon Fortin, qui est du Centre de démonstration en sciences physiques, qui est probablement un des plus grands vulgarisateurs qu'on a au Québec à l'heure actuelle, qui va proposer aux jeunes, avec canon à fumer ou quoi que ce soit, il va reproduire des vortex pour expliquer l'impact de nos modes de consommation sur l'atmosphère. Ça, c'est des activités qui sont proposées un petit peu à tout le monde lors de ces 20 ans-là. Et c'est beaucoup l'engagement de, ou des jeunes, mais l'engagement du personnel de l'éducation partout dans les écoles qu'on veut reconnaître.
Oui, oui, parce que c'est, il y a personne qui est obligé d'embarquer là-dedans.
Non,
là,
non,
puis c'est vraiment des, j'imagine que la démarche, en général, c'est des professeurs qui proposent ça à leur école ou si c'est les directions scolaires qui vont voir les professeurs puis leur demandent est-ce que vous seriez prêt à embarquer là-dedans ou comment ça se passe?
C'est un dialogue, si on peut le dire. C'est beaucoup à travers les activités de la centrale, des enseignants qui vont souvent aller voir la direction d'école et qui vont soumettre l'idée de devenir établissement vert Brundtland. C'est des fois même des parents qui découvrent ce qui se passe dans une autre école puis qui disent ben, pourquoi la nôtre ne l'est pas.
Oui, oui, oui.
Et souvent avec des résultats intéressants. Je pense un peu au bas du fleuve, une école qui devait fermer il y a quelques années à cause du manque d'élèves et qui a décidé de développer un projet éducatif autour des valeurs EVB. Ça a intéressé les gens du coin et ils ont gardé leur école.
Ah oui, parce que ça apportait des enfants. Il y a des parents qui ont envoyé qui pouvaient envoyer leurs enfants dans d'autres villages.
Dans d'autres villages.
On voit ça
donc,
c'était pas à Sainte-Paul derrière Matane, ça?
C'est ça.
Je connais.
C'est ça.
Oui,
ça. Ouais.
Ça a été la première école au Québec qui s'est vraiment équipée d'ordinateurs. Puis ça a été par une collecte de fonds des gens du village alors que l'école devait fermer. Ils l'ont sauvé comme ça. Puis ils sont tough,
et c'est le coin, dans ce secteur-là, le lieu d'origine de Monique Fitzbach, qui a été la fondatrice du mouvement des établissements vers Brundtland, qui est décédée il y a quelques années. Donc, qui a été une inspiration, qui est une femme qui est allée en Afrique, qui avait un engagement absolument impressionnant, puis une énergie, elle a drainé beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle. Il y a maintenant une fondation qui poursuit un petit peu son œuvre et qui nous appuie, Fondation Monique Fitzbach, qui collabore avec nous depuis sa création.
Et Frédéric Bach aussi qui s'est joint à vous d'une certaine
Frédéric
façon.
Frédéric Bach qui est un de nos... on a un cercle Monique Fitzbach où on reconnaît à chaque année une personne appartenant au réseau des EVB et une personne extérieure au réseau qu'on reconnaît parce que, par leurs actions, ils concrétisent les valeurs du mouvement EVB. Frédéric Bach est l'une de ces personnes-là, Jacques Languérin aussi.
C'était tellement intéressant que j'étais en train d'oublier que cette émission-là, elle a une fin.
Ah oui? je fais des signes. En plus, je voudrais juste préciser avant qu'on parte, parce qu'il y a encore le 17 et le 18 mai, le marché des saveurs dans
le marché saveurs et découvertes qui va avoir lieu le 17 et 18 mai à la place de l'Université du Québec là, dans Saint-Roch juste à côté de l'ENAP où est-ce que c'est très quand même passant donc à peu près une dizaine d'exposants sous un chapiteau pour vous présenter autant des produits locaux qu'équitables donc on maintient notre ce qu'on prêche un peu de dire que le local, l'équitable, c'est aussi le local. Donc, on invite les deux ensemble dans ce marché-là.
Bien.
Ça commence à 12h30 le 17 mai.
D'accord. Ben, en tout cas, ce sera un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je mettrai sur le site Facebook de Sekaya toutes les informations sur les écoles vertes Brundtland et sur la quinzaine commerce équitable. Si vous n'avez pas tout suivi entre les dates, etc. Vous inquiétez pas, vous aurez tout ça sur le Facebook de Sekaya. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, à la semaine prochaine. Au revoir.
Au plaisir.